France Culture.
Précisément 18h sur Culture, le journal Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Hors de question que la droite accepte un Premier ministre socialiste. Déclaration de Bruno Retailleau au congrès de rentrée des Républicains. François Bayrou n'est pas encore parti que déjà tout le monde cherche son remplaçant. Elle ne veut pas seulement le départ du Premier ministre, mais la démission d'Emmanuel Macron et la dissolution de l'Assemblée. Marine Le Pen fait sa rentrée et ne tend plus la main à personne. La Russie s'enferme toujours un peu plus dans la logique de la terreur. La diplomatie européenne condamne les frappes de la nuit sur le gouvernement ukrainien. Et puis, quand la vie ne tient plus qu'à un clic, à Gaza, les Palestiniens lancent des cagnottes en ligne pour acheter à manger. Quel avenir pour la France dans moins de 24 heures? Demain, à cette heure-ci, l'Assemblée nationale aura voté pour ou vraisemblablement contre la confiance envers François Bayrou. Il s'agira alors de trouver un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement qui ne soit pas d'office censuré. Invité de France 3 ce midi, Olivier Faure dit « Pourquoi pas moi ?» En tout cas, il acceptera la mission si le président la lui confie. Réponse immédiate de Bruno Retailleau. Hors de question, dit-il, d'accepter un Premier ministre socialiste. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Mathilde.
Vous êtes au congrès de rentrée des Républicains à Port-Marly dans les Yvelines. C'est là-bas que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé cet après-midi. Il s'est voulu plutôt rassurant dans une période qui s'annonce incertaine.
Oui, Bruno Retailleau est d'abord revenu sur son choix il y a un an de devenir ministre de l'Intérieur.
On a hésité à participer au gouvernement. On sait aujourd'hui que nous avions eu raison. En quelques mois, alors que nous étions menacés d'effacement médiatique, nous occupons désormais la première place de l'actualité. Nous sommes en tout cas au cœur du débat public, mes amis.
Mais cette participation au gouvernement, qui semble faire les beaux jours de la droite en lui redonnant du poids et de la crédibilité, est potentiellement remise en cause par le vote de confiance qui aura lieu demain à l'Assemblée nationale. Et si le gouvernement est renversé, il faudra revoir les termes du contrat avec les macronistes, a dit Bruno Retailleau.
Demain, je ne sais pas si nous ferons partie d'un nouveau gouvernement. Ça ne peut pas être automatique. Il est hors de question qu'on accepte demain qu'un Premier ministre socialiste soit nommé à Matignon.
Même si le ministre de l'Intérieur sait qu'il faudra sans doute faire quelques concessions aux socialistes pour faire adopter un budget pour 2026, il promet de ne rien céder sur l'essentiel et il a l'intention de proposer à Emmanuel Macron un contrat de gouvernement dans les jours qui viennent. Au-delà de ces échéances, Bruno Retailleau commence également à penser à la suite.
Ce rendez-vous de la droite, ça doit être une page qui se tourne pour la droite, pour que nous entrions définitivement dans le 21e siècle avec les vrais enjeux, avec ces menaces, mais aussi, comme je vous l'ai dit, ces opportunités. Et nous les saisirons, croyez-moi.
Il a terminé son discours en égrenant un certain nombre de propositions visant à réformer le pays, à l'image d'un futur candidat qui commence à se projeter vers 2027, et tout ça sous les vivats de l'assistance qui scandait à l'unisson « Bruno, président ».
Merci Stéphane Robert en direct du congrès de rentrée des Républicains avec Johanna Gabric. Pas de discours présidentiel, mais une rentrée déterminée également au Rassemblement National. C'était aujourd'hui à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Elle a confirmé, si c'était encore nécessaire, que son groupe ne voterait pas la confiance à François Bayrou demain. La chef de file du RN qui liste ses priorités pour les jours à venir, la chute du Premier ministre, la démission du président et pour finir, la dissolution. Lise Roosevelt.
Oui, au pupitre, devant une grande affiche avec ce slogan « Contre vents et marées avec vous », Marine Le Pen se montre combative et envoie un message à François Bayrou.
Il a cru que nous ne prendrions pas le risque d'une dissolution. Écoutez-moi bien. Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques.
La chef de file des députés RN, malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, est déjà prête à partir en campagne dès demain. Elle le martèle, le RN est la seule solution à l'instabilité.
Le Rassemblement National, je le répète encore, est plus que jamais prêt à assumer cette immense et haute responsabilité. Un an d'avance pour l'alternance, voilà une immense chance pour la France.
Et si Emmanuel Macron nommait encore un Premier ministre du socle commun, Marine Le Pen menace déjà de le faire tomber.
Nous resterons inlassablement les avocats des intérêts de la France et des Français. Sans prise en compte de ses aspirations, il sera lui aussi censuré.
Un moyen de faire pression sur Emmanuel Macron pour obtenir une dissolution. Comme pour résumer, elle conclut « Gardons les yeux fixés sur l'avenir et sur nos immenses possibilités ».
Lise Rosweil à Hénin Beaumont pour France Culture. Enfin, même s'il risque de perdre son portefeuille dans les jours ou semaines à venir, Manuel Valls tente une dernière fois de défendre l'accord de Bougival sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est dans les colonnes du Monde aujourd'hui, alors que le texte a été publié hier au journal officiel. Une stratégie de manipulation dénoncent les indépendantistes du FLNKS. 4 morts, 40 blessés et un bâtiment du gouvernement en feu. La Russie a mené sa plus grande attaque aérienne sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. C'était la nuit dernière dans la région de Kiev avec plus de 800 drones et une douzaine de missiles. Moscou affirme n'avoir visé que des sites militaires et les Occidentaux dénoncent le sentiment d'impunité de Vladimir Poutine. Frédéric Seyss.
Ces frappes lâches montrent que Poutine pense pouvoir agir en toute impunité. Réaction du Premier ministre britannique Keir Starmer, la Russie s'enferme toujours plus dans la logique de guerre et de terreur, renchérit Emmanuel Macron. Les deux hommes ont présidé il y a seulement 3 jours un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris, coalition des volontaires, pour mettre la pression sur la Russie. Ces attaques massives résonnent donc comme une réponse, un défi lancé aux Occidentaux. Vladimir Poutine, conforté par sa visite en Chine cette semaine, proximité affichée avec le président chinois Xi Jinping, renforcement des liens notamment pétroliers et avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dont les troupes ont aidé celles de Vladimir Poutine face aux Ukrainiens. Alors le Premier ministre polonais Donald Tusk appelle à une réaction forte. Selon lui, avec Vladimir Poutine, les tentatives d'apaisement n'ont aucun sens. Allusion aux signaux contradictoires envoyés par Donald Trump ces dernières semaines, tapis rouge déroulé pour le président russe lors de la rencontre en Alaska, puis ultimatum adressé à Poutine, 2 semaines, pas plus, pour qu'il s'assoie enfin à la table des négociations. Ultimatum qui a pris fin cette semaine, sans résultat. Donald Trump avait prévenu qu'il serait, je cite, « très mécontent ». Il n'a toujours pas réagi aux attaques massives de cette nuit.
Et vous reviendrez sur cette escalade de la guerre en Ukraine avec vos invités, Frédéric Martel.
Absolument, un petit portrait de Volodymyr Zelensky ce soir.
890 arrestations à Londres hier dans la manifestation en soutien au groupe Palestine Action. Déjà le mois dernier, près de 400 membres du mouvement avaient été arrêtés car le groupe est classé comme organisation terroriste depuis le début de l'été. Classement disproportionné, estime l'ONU, et dénoncé par les organisations de défense des droits humains. Sur place, à Gaza, Israël annonce l'extension des opérations militaires dans et autour de Gazaville. Une nouvelle tour d'habitation vient d'être bombardée. Benjamin Netanyahou affirme que 100 000 habitants ont déjà quitté la zone la plus dense du territoire palestinien. 1 million de personnes sont toujours sur place. Pour partir, ou ne serait-ce que pour survivre, certains lancent des cagnottes en ligne, sortent de bouteilles à la mer 2.0. On en trouve des dizaines de milliers sur TikTok, sur Instagram ou autres réseaux sociaux. Témoignage au micro d'Amira Swilem.
Avant la guerre, ma petite maison était pleine d'amour et de chaleur. C'est par ces mots que Fida, 35 ans, entame la description de son appel aux dons. Cette mère de famille de 4 enfants dit avoir épuisé ses économies, vendu tous ses bijoux en or et ne plus avoir eu d'autre solution que d'ouvrir une cagnotte en ligne.
Sur Instagram, j'ajoute des personnes qui défendent la cause palestinienne et qui sont sensibles à la situation à Gaza. Parmi ces personnes-là, certaines vont accepter de faire des dons et de nous aider. D'autres partagent le lien vers la cagnotte et puis il y a des personnes qui ne répondent pas. J'ai pu récolter 1500 euros de cette façon.
Cet argent lui sert essentiellement à acheter de la nourriture. Très rarement, des produits d'hygiène, dit-elle. Avec la guerre, le marché noir prospère, l'inflation explose et pour ne rien arranger, l'argent de la cagnotte n'arrive pas intégralement à destination.
C'est difficile de retirer cet argent parce que la cagnotte en ligne doit être liée à un compte bancaire européen et j'ai eu du mal à trouver une personne qui accepte qu'on passe par son compte bancaire. Cette personne m'envoie ensuite l'argent via PayPal ou la Banque de Palestine. La plateforme prend 15% sur la somme. Ensuite, une fois que l'on veut retirer cet argent ici, il y a encore 35% du montant qui est prélevé lors de l'opération de change.
À Gaza, certains accusent les plateformes et les bureaux de change d'être des profiteurs de guerre. Fida, elle, n'a pas d'autre solution. Alors que l'offensive israélienne sur la ville de Gaza s'intensifie, elle tente désormais de financer le départ de sa famille vers un lieu moins dangereux.
Un témoignage recueilli par Amira Swilem. Enfin, le couturier italien Giorgio Armani sera inhumé demain dans un petit village du nord de l'Italie. Les obsèques auront lieu dans l'intimité familiale, mais des milliers de personnes lui ont rendu une dernière visite ce week-end à l'Armani Théâtre aux 2000 ans, où son corps était exposé. Giorgio Armani est décédé jeudi dernier à l'âge de 91 ans. Le temps demain va nettement se dégrader. Il reste un peu de soleil sur la Bretagne, mais ailleurs il pleut et les températures descendent elles aussi. Il fera entre 17 et 25 degrés.